Alors, on pourrait dire, mais il y a quand même la démocratie représentative, elle est toujours là. Effectivement, elle est toujours là et ça reste un instrument, on y viendra peut-être dans la discussion, un instrument tout à fait essentiel. Mais quand par mégarde, l'Assemblée des citoyens, le peuple, se saisit vraiment d'une question, en délibère, la dépiaute, l'analyse, prend les textes malgré leur âpreté, n'écoute pas des médias qui lui disent voici, 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 c'est comme ça que se trouve le sens de l'histoire et du progrès. Quand par mégarde le peuple vote non, eh bien on va lui dire oui. Et évidemment, je pense à cet épisode de 2005, mais qui, même s'il s'éloigne un petit peu de nos mémoires, est tout à fait crucial. À mon sens, c'est un moment cardinal où, eh bien, le peuple français, mais aussi le peuple néerlandais, autre peuple fondateur, autre pays fondateur de la communauté européenne, le peuple irlandais, nous avons voté contre le projet de traité instituant la Constitution européenne, je crois, et cela nous a été imposé sous le nom de traité de Lisbonne 1 à 2 ans après. Et donc là, il y a évidemment un détournement, une perversion manifeste de la démocratie représentative tout à fait essentielle. J'allais dire, mais je rajoute, je fais une incise, mais je suis très préoccupé de cette affaire de guerre en Libye. Un autre aspect de la démocratie, c'est qu'on respecte la loi. Or, dans la Constitution française, si on emploie le terme de Constitution, il y a l'article 35, que je vous invite à relire, qui dit en gros, le Parlement délibère de l'entrée en guerre. Or, nous sommes en ce moment en guerre en Libye, sans que le Parlement en ait voté et qu'il y ait eu un quelconque débat là-dessus. Je veux bien en parler éventuellement, mais c'est un autre symptôme voilà, de cette façon dont les instruments légaux institutionnels de la démocratie représentative, à quoi on voudrait nous faire réduire la démocratie, et eh bien même les instruments légaux de la démocratie représentative ne sont pas respectés. Et puis, il y a encore, eh bien, le rôle extrêmement important des lobbies. Là encore, le très mauvais exemple nous est venu des États-Unis, mais ça prend en Europe une importance tout à fait considérable, et notamment à la Commission de Bruxelles, où autour des institutions européennes, il y a maintenant plus de 15 000 personnes qui sont employées par des lobbies. Des lobbies, c'est-à-dire des groupes de pression, ça va être un groupe de personnes qui va être payé, qui va être salarié par une entreprise ou un secteur d'activité économique pour aller voir les députés, les hauts fonctionnaires, et leur présenter, dans le cadre d'un projet de loi ou de directive, eh bien, les amendements, les idées qui correspondent à ces intérêts économiques. Alors, tout le monde pourrait être lobbyiste, je ne sais pas, la librairie Chapitre ou Radio Ferrara Rock pourrait être lobbyiste à Bruxelles. Il vous suffirait de mobiliser 5 ou 6 personnes payées 8 000 euros par mois, plus quelques locaux. Donc, vous voyez, le lobby est ouvert absolument à tout le monde. Bon, en pratique, évidemment, c'est beaucoup plus limité que ça. Alors, ça va se traduire par plein de formes. Juste un exemple que j'aime bien aussi, qui a été montré par l'équipe de José Bové, le député européen. Ils ont montré en septembre dernier que la présidente de l'EFSA, l'EFSA c'est l'Agence européenne de sécurité alimentaire, et dont une des fonctions est d'évaluer la dangerosité éventuelle des produits transgéniques. Eh bien, l'équipe de José Bové a montré que la présidente de l'EFSA, Mme Banati, était en même temps membre du bureau des directeurs de l'ILSI, un lobby agro-industriel. Et finalement, le plus stupéfiant après cette affaire, c'est que c'est maintenant connu de notoriété publique, mais Mme Banati est toujours présidente de l'EFSA. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu l'idée d'abandonner son poste. Alors, on poursuit rapidement sur le poids de l'argent dans les campagnes électorales, qui a atteint au-delà de toute limite aux États-Unis, c'est-à-dire notamment depuis un arrêt de la Cour suprême de janvier 2010, qui finalement enlève toute limite à l'argent qu'une entreprise ou une personne peut donner à des candidats, et ce qui veut dire évidemment là, que ces candidats vont avoir plus de chances d'être élus, et étant élus grâce à cet argent, à la publicité qu'ils auront pu faire dans leur campagne, eh bien, auront à cœur de rendre. De renvoyer l'ascenseur, comme on dit. Alors, par exemple, aux États-Unis, il y a une autre ONG qui travaille attentivement là-dessus, qui s'appelle le Center for Responsive Politics, et ils ont constaté qu'en 2008, 93% des vainqueurs aux élections législatives de cette année-là étaient ceux qui avaient dépensé le plus. S'ils avaient dépensé le plus, c'est qu'ils avaient reçu le plus, et s'ils avaient reçu le plus, ils s'étaient créé la plus grosse dette. Qui était rendu ensuite, on l'imagine, par des votes. Alors en Europe, on n'en est pas là. Il y a encore des lois sur le financement des campagnes électorales qui tiennent plus rigoureuse, mais en fait, on observe que dans tous les pays, il y a des dérives, des contournements de ces lois, et je ne vais pas beaucoup détailler l'affaire Woerth de Bettencourt pour voir rappeler à quel point ceci est toujours d'actualité, y compris dans notre pays.